Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Cette semaine, j'ai été choqué par la nouvelle de deux accidents de voiture graves. Quatre lycéens sont morts dans un accident. Deux frères aussi des lycéens sont morts dans un deuxième accident. J'ai appris ces nouvelles tristes à la radio presque en même temps. J'ai été attristé par ces nouvelles. Des jeunes qui avaient encore presque toute la vie devant eux, je me demandais comment les circonstances auraient pu arriver. Comment encourager les familles qui ont vécu de telles épreuves? La vérité dans la parole de Dieu, la Bible, nous offre les réponses aux questions les plus difficiles de la vie. Nous y trouvons de l'encouragement. Nous sommes encouragés par le fait que le plan de Dieu et pour toute l'humanité, pour tout le monde, tous ceux qui ont vécu depuis la création. Un passage encourageant, c'est Hébreux chapitre 12 et versets 1 et 2. Commençons avec ce passage. C'est un bon rappel que la vie chrétienne n'est pas censée d'être facile. Hébreux chapitre 12 et le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérons la course ou la carrière qu'on appelle la vie chrétienne. Examinons aujourd'hui ce qui arrivera après la ligne d'arrivée. Autrement dit, ce qui arrivera après la mort. Voilà quelques passages qui donnent de l'espoir. Ils sont ciblés sur ce qui arrivera après avoir atteint la ligne d'arrivée. D'abord, prenons l'exemple de Jésus-Christ. Reportons-nous à l'Évangile de Jean, chapitre 12. L'Évangile de Jean est le chapitre 12. Plusieurs fois et de plusieurs façons, Jésus a démontré qu'il savait que l'heure de sa souffrance et de sa mort s'approchait. Il savait ce qui se passerait avant la fin de sa vie physique. Il cherchait à préparer ses disciples pour ce qui se passerait avant et après sa mort. Jean chapitre 12. Nous voyons au verset 20 qu'il y avait des Grecs qui sont venus chercher Jésus à Jérusalem lors de la fête. Ils voulaient discuter avec lui. Et puis au verset 23, Jean chapitre 12 et verset 23, il leur répondit. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. » Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus connaissait déjà son rôle. Il savait que sa mort et sa résurrection rendraient possible une récolte abondante. Il connaissait ce rôle et nous voyons ici des mots très profonds. Il parle d'une chose si petite, une graine de blé, et nous pouvons même visualiser cette graine qui tombe dans la terre et après la vie resplendissante. Du blé en abondance. En dépit du fait qu'il parle de la mort, il nous donne de l'espoir. Pourquoi ces mots-ci nous donnent tant de l'espoir? pourquoi ces mots-ci nous donnent-ils tant d'espoir? Je crois que c'est son point de mire qui est si profond. Sa pensée n'était pas limitée à la vie physique. Par une préoccupation avec la vie physique, il pouvait voir plus loin que la ligne d'arrivée. Reportons-nous maintenant à la vie, toujours dans l'évangile de Jean, mais au chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous voyons ici cette préparation est en cours, la préparation de ses disciples qui ne comprenaient pas forcément le plan exact de ce qui se passerait dans les jours qui suivaient. Jean chapitre 16 et le verset 16. Et ici nous voyons ces mots qui sont parmi les dernières instructions de Jésus à ses disciples avant de souffrir. Encore une fois, cette fois-ci, avec une métaphore différente. Il parle de la nécessité de sa souffrance au verset 16. Verset 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Et puis au verset 20. Il les rassure que c'est normal d'être triste en voyant sa souffrance. Et pour nous aussi, c'est normal quand nous voyons de la souffrance d'être triste. Mais il nous donne de l'encouragement. Au verset 20, « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Nous voyons ici que les choses ne se passeraient pas comme les disciples l'ont prévu. Jésus leur a donné une perspective qui allait plus loin que sa mort. Ils reconnaissaient leur inquiétude, mais il leur a donné de l'espoir. Il a parlé de la bonne nouvelle du royaume. Donc, nous ne devrions pas être étonnés quand l'apôtre Paul ait eu la même perspective. Reportons-nous maintenant à 1 Corinthiens, chapitre 15. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul emploie la même métaphore que nous avons vue dans Jean, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 34. Verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point la vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend pas la vie s'il ne meurt. Donc, encore une fois, qu'on ne soit pas découragé. Paul ne veut pas qu'on soit découragé. Et il emploie ce même métaphore de sémence et de l'abondance qui arrive après. Reportons-nous encore une fois dans les écrits de Paul à 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, et le verset 6. Paul étant arrivé à la fin, ou presque à la fin de son ministère, donnait des conseils à Timothée, qui était jeune dans le ministère. Il donnait ce conseil, et il a fait des réflexions sur sa vie aussi. En disant ici, 2 Timothée, chapitre 4, et le verset 6, il écrit « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ce sont des mots, des paroles d'espoir. Mais encore une fois, Paul parlait de sa mort. Donc, il nous a donné de l'encouragement, il a donné de l'encouragement à Timothée, même en parlant de sa mort, même en parlant de ce qui devait arriver à la fin de sa course. Reportons-nous maintenant à 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, et commençons avec le verset 1. Paul écrit, « Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son repentance. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Paul est en train de parler ici d'une certaine vision, un type de vision. Le verset 3, il continue. « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit par ou des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifiais d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Qu'est-ce que ces mots veulent dire? Nous n'avons peut-être pas eu ce type de vision, mais les descriptions des visions du 3e ciel sont préservées dans la Bible. Donc, quand on parle du fait de persévérer et de garder les yeux fixés sur le royaume, on parle d'une certaine vision, d'une certaine perspective et de notre but de la vie. Paul parle d'une vision miraculeuse. C'est une vision, c'est lui qui, il parle de lui-même, et il parle de cette vision du 3e ciel. Et ces mots sont préservés dans la Bible pour nous, même si nous n'avons pas eu ce type de vision miraculeuse. Nous pouvons imaginer ces choses avec l'aide des Écritures. Nous avons les prophètes et les promesses de la parole de Dieu pour nous encourager, pour nous aider à avoir cette vision, cette perspective. Maintenant, considérons les paroles de Pierre, l'apôtre Pierre. Reportons-nous à 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre 3, et le verset 9. 2 Pierre 3, et le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Qui parmi les disciples serait mieux placé pour discuter de la miséricorde du Seigneur envers nous? Pierre a régné Jésus 3 fois. il était souvent en désaccord avec Jésus. Nous avons quelques exemples dans les évangiles. Et ici, il parle d'une certaine patience, une patience que l'Éternel garde envers nous. Ça peut nous encourager aussi. Heureusement que Dieu est patient envers nous. Maintenant, nous comprenons ces passages qui donnent de l'espoir, mais comment ces passages vont-ils impacter notre comportement? Il doit y avoir un impact sur notre comportement. Ces versets sont bien très encourageants. Nous ne sommes pas les seuls à rencontrer des épreuves. Nous faisons de notre mieux, jour après jour, mais notre but va au-delà de la ligne d'arrivée. La Bible est remplie de passages qui décrivent le royaume de Dieu et la nouvelle Jérusalem. Dans les semaines à venir, nous arriverons à la Pentecôte et nous allons parler des prémices et la préparation des prémices. Nous sommes tous en préparation et cela devrait nous encourager aussi. Continuons maintenant avec ce même passage de l'épître de Pierre. Nous pouvons visualiser ce qu'il y aura après la ligne d'arrivée, mais nous ne pouvons pas cesser de courir, n'est-ce pas? Jusqu'à la perfection. C'est un processus qui continuera toute la vie. Maintenant, reportons-nous à 2 Pierre 3 et verset 11. Nous sommes déjà à 2 Pierre 3, mais maintenant au verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Comment devons-nous nous conduire? Quand nous imaginons ce qui va arriver après la ligne d'arrivée, comment devons-nous nous conduire? Avec tout cet espoir en nous, et bien sûr dans cette course, la vie chrétienne, comment devons-nous nous conduire? Les versets suivants sont très utiles. Il y a beaucoup de leçons. 2 de Pierre 3, et maintenant le verset 14. C'est pourquoi, donc en parlant de ces choses, le fait que même le monde entier doit changer, doit se dissoudre, il parle ici maintenant de certaines leçons. Le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Irrépréhensibles dans la paix. Il y a quelques aspects, même dans ce petit verset, quelques points que nous pouvons réfléchir, que nous pouvons examiner, que nous pouvons appliquer à notre vie dans cette course, la vie chrétienne. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Je crois que ces deux aspects, sans tache et irrépréhensible, parlent d'une vue intérieure, sans tâche, sans le péché, bien sûr, et aussi une vue vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, ceux qui sont nos collègues, notre famille, qui peut-être n'est pas dans l'Église, mais comment veulent-ils nous, ou comment ils nous voient? Est-ce que nous sommes irrépréhensibles aux yeux de tout le monde, de notre voisin? Je crois que sans tâche et irrépréhensible sont bien sûr, deux aspects qui sont les deux importants. Aussi, dans la paix est mentionné ici, la paix que nous avons avec la compréhension du plan de Dieu. C'est bien sûr une paix qui nous donne la possibilité de passer par des épreuves. Et puis, continuons au verset 18, il y a des avertissements qui se trouvent ici. Verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. J'ai sauté plusieurs versets, mais il y a entre le verset 14 et le verset 18 quelques avertissements. Revenons maintenant à quelques-uns de ces versets. Le verset 14 a dit « Soyez en attendant ces choses ». Maintenant au verset 15 « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut ». Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à entendre, à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc il y a bien des gens qui tordent les Écritures pour leur propre ruine et qui endommagent des autres aussi, malheureusement. Mais notre but, nos yeux doivent être fixés sur la ligne d'arrivée et ce qui arrivera après la ligne d'arrivée. Donc, au verset 18, Pierre revient à ces paroles encourageantes en disant « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » L'apôtre Jacques trace un lien entre le retour de Jésus-Christ et notre comportement, notre façon de vivre. Reportons-nous maintenant à Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 et le verset 8. Jacques 5 et verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Un avertissement, quelque chose qu'on doit examiner, qu'on doit faire pour préparer pour le futur, pour l'avenir. Continuons maintenant avec le verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui m'ont parlé au nom du Seigneur. Voici, vous nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves, c'est Job, bien sûr, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Continuons avec le verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Encore une fois, il y a plusieurs leçons qui se trouvent dans ce passage, donc ces versets, de ne plaignez pas, de regarder les exemples des prophètes qui se trouvent dans les Écritures, l'avertissement de persévérer et de ne pas jurer, de ne pas jurer. Bien sûr aussi, Jacques nous rappelle qu'il faut de l'intégrité, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si nous sommes engagés, si nous avons déjà donné notre vie au Seigneur, nous n'allons pas manquer d'intégrité. Nous n'allons pas faire aller à droite et à gauche de ne pas avoir d'intégrité. Nous allons rester solides dans la foi. Et ces encouragements se trouvent ici et dans plein d'autres versets de la Bible. Maintenant, revenons au passage de tout à l'heure. Nous avons lu les paroles de Jésus tout à l'heure. Revenons à ces passages, parce qu'il y a d'autres leçons qui se trouvent ici. Jean, chapitre 12. Nous avons lu tout à l'heure quelques versets de ce passage, mais continuons maintenant à les lire. Jean chapitre 12 et le verset 25 maintenant. Encore une fois, nous parlons ici d'une certaine perspective, d'un point de vue, de la façon de vivre notre vie sur le plan humain. Et c'est quelque chose, si on fait de bons choix, si on met les priorités dans l'ordre, on va arriver à la fin de cette course. Nous devons poursuivre cette course, nous ne devons pas nous mettre à côté, se divertir avec d'autres choses, mais si nous restons focalisés sur ce qui arrivera après la ligne d'arrivée, nous allons faire de meilleurs choix. Cela va nous changer la vie. Et c'est en se fixant sur les Écritures, sur les paroles, la parole de Dieu, que nous gardons cette perspective et que nous raffinons aussi cette perspective de ce que c'est la vie chrétienne, de ce que demande Dieu de nous. Maintenant, Jean chapitre 12 et le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous voyons ici une sorte d'hyperbole qui existe souvent dans le grec, l'idée de haïr la vie ou d'essayer à garder ou aimer la vie. Ceci ne veut pas dire que nous sommes obligés de haïr toute chose, de ne pas avoir de la joie dans la vie. Cette instruction, c'est plutôt de mettre bien les priorités dans l'ordre, de garder les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Si nous sommes préoccupés par des choses qui sont temporelles, qui sont de ce monde, qui sont des distractions finalement, nous allons perdre le chemin, nous allons rater notre but. Continuons avec le verset 26. Si quelqu'un me sert, donc encore une fois la parole de Dieu ici, la parole de Jésus-Christ, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, pour servir l'Éternel, qu'est-ce qu'il demande de nous? Il demande que nous le suivons, que nous le suivons avec toute notre force, avec toute notre persévérance. Et en faisant cela, nous serons son serviteur. Et bien sûr, dans la perspective de la Pentecôte et de la préparation des prémices, nous devons garder notre réflexion sur le fait que nous sommes des serviteurs. Déjà, nous sommes déjà appelés aujourd'hui d'être serviteurs du Dieu de l'univers, de l'éternel Dieu. Et nous allons trouver un jour de l'honneur. Il est écrit ici, nous avons déjà lu les paroles de l'apôtre Paul aussi, qui parle d'une couronne, qui est après cette vie. Ici, nous avons l'exemple du fait que le Père va honorer ceux qui sont ses serviteurs. Le verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela. Jésus avait une perspective de ce qui se passerait après la vie, après sa vie. Il n'était pas limité par ce monde temporel. Il n'était pas limité dans sa réflexion, dans son perspective, par les choses qui ne dureront pas. Il aurait pu dire, « Père, c'est trop. Père, moi, pour moi, c'est fini. J'ai donné tout ce que je pourrais, que je peux. Moi, maintenant, je m'arrête. » Il aurait pu le dire comme ça. Mais il a dit à ses disciples, dans cet exemple profond, que, en fait, il est venu pour cette heure. Il est venu pour souffrir, pour mourir, pour devenir cette graine de blé qui était obligée de tomber dans la terre et qui donnera accès à la vie éternelle. C'est incroyable, mais c'est quelque chose qui est très encourageant pour nous en tant que chrétiens. Continuons maintenant avec le verset 28. « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vient ou vint du ciel. « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Donc il y avait un son miraculeux qui est arrivé. Le verset 30, Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » J'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Encore une fois, ce métaphore d'une graine de blé qui était obligée de tomber dans la terre et de mourir, mais qui donne la vie à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont dit en réponse? Qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 34? La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. » Éternellement. « Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme ?» On voit encore une fois, ils n'avaient pas une bonne compréhension ici de ce qui devrait arriver. Le verset 35, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Dans la course chrétienne, dans cette carrière, nous devons rester focalisés sur le chemin, le bon chemin. Nous devons suivre les pas de l'Éternel, le pas du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre la bonne voie qui mène à la vie éternelle. Nous avons les yeux ouverts aussi. C'est un miracle. C'est un miracle le fait que nous avons les yeux ouverts pour voir la vérité, pour comprendre ce qu'il doit faire, ce que nous devons faire, pour comprendre la volonté de Dieu. Le verset 36 maintenant. « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Encore une fois, quelques mots, quelques expressions qui nous donne tellement de joie, tellement d'espoir, même face à face à la mort. Ici, il a dit que vous soyez des enfants de lumière. Notre compréhension, la vérité, nous indique que, en fait, nous avons l'occasion, nous aurons l'occasion de devenir les enfants de Dieu. Les enfants, nous sommes déjà les enfants de Dieu dans un sens, mais nous attendons notre naissance dans une nouvelle vie, un nouveau corps qui nous attend, un corps spirituel, un corps glorifié, et nous serons dans la famille de Dieu. C'est ça qui nous attend, c'est ça notre but, c'est ça ce qui se passe ou ce qui arrivera après la ligne d'arrivée. Et en disant ces choses, il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il n'était pas là avec eux tout le temps. Il leur a donné l'occasion de réfléchir un petit peu sur ce qu'il a dit. Maintenant, reportons-nous à Luc 23. Luc 23. Cette perspective devrait résonner avec nous. Et c'est en arrivant à la fin de sa vie que Dieu, ou que l'Éternel, que le Seigneur Jésus-Christ a donné tant d'espoir. Même avec ses dernières paroles, avec ses derniers mots, il nous donne de l'encouragement. Beaucoup d'encouragement ici. Luc chapitre 23. Et commençons à lire au verset 44. Luc 23, 44. Il est en train de souffrir, bien sûr. Il a été crucifié. Il a dû souffrir. Et maintenant, nous arrivons à la fin. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? Ou est-ce que c'est plutôt la fin d'une étape? La fin d'une partie du plan de Dieu? Du plan qui est pour toute l'humanité? Lisons ici au verset 44. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Encore une signification de cette ouverture du plan de Dieu, de cette ouverture à beaucoup plus qu'une nation physique, beaucoup plus de personnes. Et continuons maintenant au verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que ces mots sont des mots de défaite, des mots de raté de but, des mots qui indiquent une certaine manque d'espoir? Non. Ces mots nous donnent de l'espoir, de l'encouragement. Ce passage nous fait penser au début de l'évangile de Jean, le fait que la lumière est venue et était parmi les hommes. Il y avait un rôle que Jésus a joué avec sa vie physique. Et bien sûr, il continue aujourd'hui d'être présent avec nous par le Saint-Esprit. Nous avons réfléchi aujourd'hui à la ligne d'arrivée de la course chrétienne. Nous avons réfléchi à ces dernières paroles de Jésus-Christ qui indiquent une transition. Il donne une attitude d'humilité. Il était complètement humble vis-à-vis de la volonté du Père. Il cherchait à accomplir cette volonté. Et les paroles de Jésus-Christ sont tellement précieuses à nos yeux. Il a pu voir, après la ligne d'arrivée, voir ce qui arrivera pour nous tous après la ligne d'arrivée. Nous ne sommes pas obligés de craindre la mort. Nous ne sommes pas limités avec ces préoccupations de cette vie physique, de cette vie temporelle. Toutes choses vont disparaître un jour. Même notre corps physique, même tout le monde, comme nous avons lu tout à l'heure. Mais Jésus a pu voir avec une perspective éternelle, une perspective après la ligne d'arrivée, après la course, après la lutte, après les difficultés de la vie physique, après les tentations, après l'endurance, après toutes les souffrances de ce monde. Cela devrait aussi nous donner de l'espoir, frères et sœurs, de pouvoir rejoindre Jésus-Christ dans cette perspective. Et bien sûr, avec l'aide de son esprit, nous avons encore mieux la possibilité d'examiner et de comprendre les promesses de Dieu, les promesses qui seront tous accomplies un jour. Dieu a donné son Fils. Le Père a donné son Fils comme sacrifice à notre place. Il était sans péché. Il était sans péché, acceptable pour un sacrifice pour tout le monde. C'est quand même incroyable qu'il a utilisé sa vie. Il a utilisé sa vie pour changer la vie de beaucoup de personnes, de sa création même. Mais il y a des gens dans ce monde qui veulent qu'on soit découragé, qu'on ne voit plus après la ligne d'arrivée, qu'on reste fixé sur ce qui est devant nous et devant nos yeux. Tout le monde peut visualiser le lendemain, ou peut-être dans une semaine, même il y a des gens qui réfléchissent à la fin de la vie. Comment ils vont souffrir peut-être, ou comment ils vont mourir. Il y a des gens qui font ce type de réflexion. Dans les écrits de Montaigne, il a parlé, il a écrit de cette crainte de la mort. Mais il a posé une question un peu intéressante. Intéressante. Pourquoi mépriser la mort? C'est ça un petit peu la question de Montaigne dans un de ses essais. Il a dit qu'on ne peut pas l'éviter, même si on l'ignore, elle est inévitable. Il a écrit, et je cite, « Le but de notre chemin, c'est la mort. » C'est ça qu'il a écrit. « Le but de notre chemin, c'est la mort. » Fin de citation. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai? Frères et sœurs, je crois que nous sommes tous d'accord que ce n'est pas notre but, que ce n'est pas la fin, mais c'est la fin d'une étape, la fin d'une partie du plan de Dieu pour nous. Mais la vraie question qu'il faut poser, c'est pourquoi nous ne devons pas craindre la mort? Pourquoi ne pas craindre la mort? Est-ce que c'est parce que la mort est inévitable, comme dit Montaigne? Il a dit qu'on ne peut pas éviter, même si on l'ignore, la mort va nous trouver. Ou est-ce que c'est parce que nous savons ce qui arrivera après la mort. Gardons, frères et sœurs, nos yeux fixés sur le royaume de Dieu, en nous concentrant sur ce qui arrivera après la ligne d'arrivée de cette course chrétienne. Je fais parfois du footing, même si ce n'est pas toujours amusant, le footing, je crois que cela me fait du bien. Ça prend de l'effort. J'essaie de ne jamais m'arrêter pendant un footing. C'est difficile des fois. J'essaie d'aller un peu plus loin et de ne jamais m'arrêter. Parce que je dois rentrer aussi, mais c'est quand même pour m'entraîner, pour me préparer, pour faire du bien. Il faut que je continue à courir. Je m'encourage à continuer jusqu'à la fin. Souvent, c'est jusqu'à la rentrée chez moi. Je m'encourage de faire un peu plus d'efforts pour monter une colline ou pour aller plus loin, pour attendre la ligne d'arrivée. Souvent, c'est chez moi. Des fois, je vais ailleurs pour faire le footing. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, nous devons nous encourager, nous aider, nous demandons bien sûr de l'aide de Jésus-Christ, de notre Seigneur et de notre Père, le Dieu, de tout de l'univers. Nous demandons de l'aide en priant pour cette aide, pour cet encouragement, même face à face aux épreuves de la vie. Et nous continuons à faire notre effort aussi. Nous continuons à nous efforcer d'aller plus loin, d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Avec une bonne conduite, en faisant de bons choix. Ça commence très tôt dans la vie. Maintenant, nous avons nos 3 enfants à la maison. 2 de ces enfants sont de 6 ans et 4 ans. Et donc, pour les 2, nous encourageons les 2 de continuer dans les efforts, de ne pas se décourager dans ce qu'ils entreprennent, dans ce qu'elles entreprennent. Et nous avons besoin tous dans cette vie chrétienne de l'encouragement. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'encouragement pour nous tous. La parole de Dieu est une source d'encouragement tout le long de notre course dans la vie chrétienne. Notre espoir reste à la résurrection. Notre espoir reste à la résurrection. Reportons-nous à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous appelons ce chapitre le chapitre de la résurrection, bien sûr. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est quand même un chapitre qui est très encourageant, qui nous aide à comprendre même ce qui se passe ou ce qui arrivera après la ligne d'arrivée. Il y a plusieurs endroits ici, nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais au verset 20, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Donc, c'était obligé qu'il passe devant nous. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, il a accompli son rôle, il a accompli la volonté de Dieu, le Père. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Cela nous demande un petit peu de patience quand même, n'est-ce pas, d'attendre son avènement, de prier que ton règne vienne, et de rester solide dans la foi, et de poursuivre cette vie chrétienne, cette course que nous sommes engagés dans la vie chrétienne. Et puis il continue à écrire de ce qui va se passer à la résurrection. Maintenant, au verset 42, le verset 35, encore une fois, nous avons ce métaphore d'une certaine sémence. Encore une fois, une petite sémence, un simple grain de blé. Au verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? Et avec quel corps vient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Nous lisons ça encore une fois, de cette perspective encourageante, de cette perspective d'espoir, de pouvoir visualiser ce qui arrivera après la ligne d'arrivée, et le rôle qu'attend les prémices. Et puis au verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un homme vivant. C'est quand même encourageant de penser au fait que tout ce que nous voyons dans cette vie physique a un but. C'est pour nous préparer, pour nous donner des occasions de nous préparer, si Dieu travaille avec nous, de préparer pour le rôle qui nous attend lors de son avènement. Ces passages sont très encourageants et nous avons un espoir que ce monde autour de nous ne peut pas avoir sans la vérité. Donc nous attendons le jour de son avènement, nous faisons notre mieux pour rester sur le bon chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et nous voyons devant nous ce qui arrivera après la ligne d'arrivée. Ces paroles sont très précieuses, les paroles de Jésus-Christ, les paroles de Paul et de Jacques et de Pierre aussi. Nous avons beaucoup de leçons, beaucoup de points à examiner. Est-ce que nous sommes dans la foi? Est-ce que notre foi est bien solide? Est-ce que nous courons avec persévérance cette course qui est devant nous? Avec les paroles de Jésus-Christ, on peut voir plus loin que la ligne d'arrivée. Ces dernières paroles que nous avons lues tout à l'heure témoignent d'une personne qui avait vécu une vie parfaite, une vie sans péché. une vie acceptable aux yeux de Dieu. Ces dernières paroles témoignent de quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable avec sa vie. Il a servi les autres avec sa vie. Et ces dernières paroles témoignent de quelqu'un qui a continué jusqu'à la fin. Il a dit, c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Il a fait face à ces épreuves avec de l'espoir, avec courage, avec la persévérance. Et en fait, ce n'était pas vraiment la fin, mais un pas vers l'éternité. Frères et sœurs, suivons-nous son exemple aujourd'hui dans ces domaines. Après la course, nous tous, nous célébrons la victoire. La couronne de gloire mentionnée par l'apôtre Paul nous attend. Paul pensait à ce qui se passerait après la course, ce qui arrivera après la ligne d'arrivée. Cette perspective donne lieu à une flamme d'espérance dans nos cœurs que nul dans ce monde ne pourra éteindre.